VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Politique aux États-Unis, nouveau développement dans la transition de l'administration Obama au futur gouvernement du président élu Donald Trump. Le milliardaire républicain a décidé de confier le ministère de la Justice au sénateur Jeff Sessions. Il a également choisi le patron de la CIA, l'agence de renseignement américaine, ainsi que son conseiller à la sécurité nationale, John Lindon.
Jeff Sessions, 69 ans, est très remonté contre l'immigration illégale, l'un des principaux thèmes de campagne de M. Trump, qui a promu d'expulser les 11 millions de clandestins. Natif du sud des États-Unis, il a représenté l'Alabama au Sénat à partir de 1997 et s'y est illustré durant les présidences de George W. Bush et Barack Obama, en s'opposant notamment à plusieurs projets de régularisation des sans-papiers. Il a provoqué une controverse pour des propos racistes tenus il y a plusieurs décennies. Les médias américains ont aussi indiqué que la CIA allait être pilotée par Mike Pompeo, 52 ans. Il a fait partie de la commission d'enquête du Congrès sur l'attaque de la mission américaine à Benghazi en 2012. Le poste de conseiller à la sécurité nationale va revenir au général à la retraite Michael Flint, 58 ans. Il avait dirigé le service des renseignements militaires entre 2012 et 2014. Mitt Romney, républicain modéré et candidat malheureux face à Barack Obama en 2012, devrait être reçu par Donald Trump ce week-end.
Fin au Maroc de la conférence sur le climat, les échanges ont été constructifs mais n'ont pas abouti à des résultats spectaculaires. Les accords de Paris avaient fixé les objectifs à atteindre. La rencontre de Marrakech, elle, s'est appesantie sur comment les réaliser. Azouma Compaoré.
Comment s'assurer que les 100 milliards de dollars annuels promis aux pays en développement seront bien atteints en 2020? Comment préparer le rendez-vous de 2018 pour un premier bilan? Ce sont là autant de questions abordées par les négociateurs. Après le Royaume-Uni jeudi, 111 pays ont ratifié l'accord de Paris avec plus de 190 pays autour de la table. Les pays en développement mettent en avant la dernière évaluation onusienne qui estime les besoins pour les seules actions d'adaptation entre 140 et 300 milliards de dollars par an d'ici 2030. Les pays développés se sont engagés à aider pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et aider à protéger des impacts du réchauffement comme les sécheresses, inondations, hausse du niveau des océans. Une aide qui sera financière, mais aussi en termes de transfert de technologie et d'expertise. Dans la proclamation de Marrakech, publiée jeudi soir et endossée par tous les États, figure un appel à augmenter le montant, les versements et l'accès au financement pour des projets climatiques. Vendredi, les îles Fidji, petit pays particulièrement exposé au changement climatique, ont annoncé qu'elles vont accueillir la COP23 fin 2017.
RDC, la défense de l'opposant congolais Moïse Katumbi, condamné à 3 ans de prison pour un conflit immobilier, a demandé aujourd'hui à Kinshasa le dépaysement de cette affaire hors de l'ex-province du Katanga, dans le sud-est du pays, où le jugement avait eu lieu. Une requête présentée en appel devant la Cour suprême de justice. Maître Joseph Mukendi, l'un des avocats du prévenu, a accusé les tribunaux du Katanga d'être soumis à des immixtions de leur hiérarchie et de la politique dans les jugements. Rappelons qu'en juin, M. Katumbi avait été condamné à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation d'immeubles par un tribunal de paix de Lubumbashi, deuxième ville de la RDC dans le sud-est. Mais ses avocats ont toujours rejeté ce jugement, faisant valoir les pressions exercées sur les juges. Pour sa part, la partie adverse souhaite que l'affaire soit rejugée au Katanga où les infractions ont été commises, jugeant imaginaires les craintes exprimées par la défense de Moïse Katumbi. Ex-allié de poids du président congolais Joseph Kabila, Moïse Katumbi est passé à l'opposition en septembre 2015 après avoir démissionné de son poste de gouverneur de l'ex-province du Katanga. Il a quitté le parti présidentiel à la même occasion. Moïse Katumbi est aussi visé par un autre procès dans une affaire de recrutement présumé de mercenaires. Gabon, un pré-rapport rédigé sous l'égide de l'Union africaine et révélé jeudi remet de nouveau en cause les résultats de l'élection présidentielle dans le pays. Le président Ali Bongo Ondimba a été réélu, mais son rival Jean Ping conteste toujours le résultat du scrutin. Nani Talani.
Les deux experts qui signent ce pré-rapport s'interrogent sur la présentation parfaite des procès-verbaux du Haut-Ogooué par rapport à ceux d'autres bureaux du pays. Ils sont si bien rédigés, ordonné qu'ils paraissent invraisemblables, ont écrit le président de la Cour constitutionnelle du Tchad et un juge constitutionnel du Togo. Ils s'étonnent de la coïncidence entre le nombre d'inscrits, celui des suffrages exprimés et l'attribution quasi totale de ceux-ci à un seul candidat. Pour Sizinkea, ministre des Relations avec le Parlement et un des avocats d'Ali Bongo, leur document n'est pas crédible. Dans la province du Haut-Ogooué, fief des Bongo, le président a obtenu 95% des voix avec un taux de participation de 99% lors du scrutin du 31 août dernier.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Satisfaction de la Centrafrique après l'engagement des donateurs qui ont promis hier à Bruxelles en Belgique d'aider la Bangui à hauteur de 2,2 milliards de dollars sur les trois prochaines années pour aider à la reconstruction du pays dévasté par la guerre. Le résultat est jugé positif par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Au micro d'Idriss Fall, Moussa Magloire, premier conseiller de l'ambassade centrafricaine à Bruxelles.
Très bien, très bien. La conférence a répondu aux attentes d'abord du peuple centrafricain et des autorités centrafricaines qui étaient sur les lieux. Parce que, in fine, nous avons obtenu des promesses de 2,268 milliards d'euros. Ça, c'est pour une exécution de 3 ans. On avait estimé 1 milliard et quelques. Voilà ce qu'on a obtenu, dépasse même nos attentes.
Et apparemment, pour une durée plus courte, parce que vous demandiez sur 5 ans, et apparemment, les dons vont venir sur 3 ans.
Oui, sur 5 ans, il y avait des priorités sur 3 ans. Donc, sur 3 ans, on a estimé avoir 1 milliard et quelques. Nous sommes allés au-delà.
Quelle sera la priorité pour utiliser cet argent que vous allez recevoir des donateurs?
La priorité pour nous, c'est la sécurité, la réconciliation, le redéploiement de l'administration sur tout le territoire. Et vous souviendrez qu'on a les événements de l'administration avec prévu de mettre tout son futur autant au niveau de la capitale que dans leur pays. Donc maintenant, l'État veut se redéployer sur le territoire. Donc ça peut passer des priorités de l'État.
Est-ce qu'il y a des garanties de transparence et de bonne gouvernance?
Bon, oui, effectivement, le chef d'État tient à ça. Le chef d'État tient à la transparence de la gestion.
Voilà, c'était Moussa Magloire, premier conseiller de l'ambassade centrafricaine à Bruxelles. L'Éthiopie a intensifié la répression des médias avec l'arrestation ou condamnation d'au moins 3 journalistes et blogueurs depuis l'instauration de l'état d'urgence. Les détails avec Eric Manirakiza.
D'après le Comité pour la protection des journalistes, Abdi Gada, un journaliste de télévision actuellement sans emploi, n'a pas été revu depuis le 9 novembre. Befekadu Ailu et Nathanael Feleke, deux blogueurs, sont harcelés. Monsieur Ailou a été libéré en octobre 2015 après 18 mois de prison, mais a été de nouveau arrêté le 11 octobre. Monsieur Feleke a été arrêté le 4 octobre avant d'être relâché sous caution. Et Gatachew Wolku, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Ethio Mihidar, a été condamné mardi à 1 an de prison. Selon le classement du Comité pour la protection des journalistes, l'Éthiopie est 4e sur la liste des pays qui pratiquent la censure et au 3e rang pour le nombre de journalistes emprisonnés en Afrique.
En Tunisie, l'instance Vérité et Dignité continue aujourd'hui ses audiences publiques qui ont commencé hier. L'instance est chargée de faire la lumière sur les violations des droits humains dans le pays. Lofti Azouz, directeur exécutif d'Amnesty International à Tunis, nous parle d'un moment historique.
L'audition, ça va concerner les victimes des violations des droits humains et ainsi que pour la première fois, on va entendre donc des tortionnaires qui parlent des violations des droits humains et qui s'excusent de ces violations. C'est pour cela qu'on considère un moment historique qui peut aider à bâtir une nouvelle Tunisie. On a la question de la vérité, la question de la justice, la question d'assurer la transition vers un pays démocratique qui assure le respect de l'état de droit et des droits de l'homme. C'est pour cela que ce genre d'audition, ça va jouer un rôle très important.
Lofti Azouz, directeur exécutif d'Amnesty International à Tunis. Et pour terminer, au Mozambique, les autorités cherchent à élucider les circonstances de l'explosion accidentelle d'un camion-citerne qui a fait au moins 56 morts et 108 blessés. Une commission d'enquête a été mise en place pour déterminer les causes du drame qui s'est produit jeudi en zone rurale. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.